Il va falloir prendre encore un peu son mal en patience avant la réouverture des cantines. Elle est annoncée pour mercredi prochain, soit le 12 novembre, juste après le pont. Coup de filet à la vallée du Tir. 6 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Un homme de 28 ans a été condamné à 18 mois de prison, un autre à 12 mois d'enfermement. Avant-dernier jour pour le Nouméa Women's Forum qui s'achève demain. Aujourd'hui, les participantes pouvaient assister à des masterclass au Crépac à Nouville et ont été récompensées à l'occasion de l'appel à projet Women in Tech 2025. Le 13 novembre prochain, le cluster NCT Hendaye fêtera ses 10 ans d'existence, 10 ans d'accompagnement aux entreprises qui souhaitent se développer au-delà des frontières du territoire. L'entreprise Goodman Fielder, grande gagnante de la 3e édition du CPAC Challenge. La remise des prix a eu lieu hier soir. 3247 collaborateurs ont participé. C'est presque 1000 de plus que lors du précédent défi. C'était en 2023. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Naïma Moutchou, attendue en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine. La ministre des Outre-mer sera en visite en Nouvelle-Calédonie du 10 au 14 novembre prochain. C'est cette semaine que cette visite en Calédonie, la première depuis sa nomination, devait avoir lieu. Mais elle a été reportée à la demande du Premier ministre Sébastien Lecornu en plein débat budgétaire en métropole. Et notez ces deux rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, c'est le député de la première circonscription Nicolas Metzdorf qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. L'occasion d'évoquer avec lui la future visite de la ministre des Outre-mer sur le territoire, mais aussi d'évoquer la situation politique actuelle en Nouvelle-Calédonie. Nicolas Metzdorf, invité d'Elisabeth Noir dans Transparence, c'est demain juste après notre édition de la mi-journée. Et depuis le 1er novembre, la Nouvelle-Calédonie est officiellement rentrée dans la période cyclonique, une période pour laquelle les forces armées en Nouvelle-Calédonie se sont préparées ces dernières semaines. Les FANC au service de la population pour cette période particulière. Nous en parlerons demain midi à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. C'est le général de brigade Gabriel Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui sera notre invité du matin. Les cantines des établissements scolaires de la DEC resteront fermées encore demain. Leur réouverture se fera après le pont du 11 novembre, c'est-à-dire le mercredi 12, Jean-François Baudin.
Oui, une décision qui avait été annoncée hier par le directeur de l'enseignement catholique à la suite d'une lettre que lui avait adressée la membre du gouvernement en charge du secteur, Isabelle Champmoreau. Il faut donc encore attendre avant la réouverture des cantines. Et ce midi à Nouméa, sur la place des Cocotiers, nombre d'élèves et de parents sont donc venus se restaurer sur la pause de midi. Des familles qui ont hâte que les services de cantine soit de nouveau assuré.
Ça fait du bien pour les parents, surtout pour l'organisation, parce que c'était compliqué en fait de quitter le travail. Il y a des parents qui ne peuvent pas. Et là, si la cantine elle revient, ben, ça sera bien pour nous les parents. Heureusement, moi, je travaille sur Goro, du coup, ben, quand ma femme elle travaille, du coup, ben, c'est moi qui viens donner à manger, les récupérer. Et puis quand je ne suis pas là, ben, elle est obligée de sortir du travail et puis venir. Compliqué, en plus que la circulation, les travaux, c'est pas fait pour qu'on puisse venir le midi sur Nouméa.
Je suis très 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 contente parce que c'est quand même une contrainte logistique, on va dire. Et puis finalement, même eux, ils aiment aller à la cantine.
C'est une bonne chose parce que c'est compliqué pour les parents pour se déplacer ou pour rester à l'extérieur pour donner à manger aux enfants.
C'est une bonne nouvelle pour nous. C'était un peu dur pour venir à 11h30, les récupérer, les faire manger, puis les ramener. C'est quand même éreintant pour nous.
C'est très bien. On remercie les personnes qui ont fait que ça s'est débloqué.
Parce que c'était quand même un souci d'organisation cette semaine. Donc, on est très heureux que ça reprenne.
Voilà, il va falloir encore un peu de temps avant que les cantines reprennent, notamment pour faire les réapprovisionnements nécessaires à la fabrication des repas.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. La reprise des services de cantine à partir du 12 novembre signifie-t-elle, selon vous, la fin du conflit entre la DEC et les collectivités? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 12% seulement des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut tout faire pour sauver la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Ils sont 88% à être d'un avis contraire. Justice et une affaire de trafic de drogue résolue, c'est ce qu'indique le procureur de la République dans un communiqué. Il s'agit, Jean-François Baudin, du résultat d'un travail commun entre plusieurs services de police menés à la vallée du Tir.
Tout est parti d'un homme qui se livrait à de la revente d'herbes de cannabis. Les opérations de surveillance menées pendant plusieurs jours ont permis d'établir qu'une quinzaine de clients venaient se fournir régulièrement. Et le 29 octobre dernier, un coup de filet a permis l'arrestation de 6 personnes, le dealer, 2 autres revendeurs et 3 clients. Lors d'une perquisition au domicile du dealer, les policiers ont trouvé 900 grammes d'herbe, 285 000 francs en liquide provenant du trafic, mais aussi des armes provenant d'un vol. Le dealer se fournissait auprès de 2 fournisseurs, dont l'un à Saint-Louis a également été interpellé. Le dealer et les fournisseurs ont comparu devant le tribunal dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. L'auteur du trafic Vallée du Tir a été condamné à 18 mois de prison, dont 8 avec sursis, à une amende de 200 000 francs et interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Le fournisseur écope plus de 12 mois de prison et 300 000 francs d'amende et l'enquête se poursuit pour identifier le second fournisseur.
Merci Jean-François Baudin. Il est 17h51. Première pause dans ce journal avant de prendre des nouvelles du Nouméa Women's Forum qui se déroulait à Nouville aujourd'hui.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur, fermer les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Léana Colombo.
La suite du Nouméa Women's Forum, l'événement qui s'est ouvert ce mardi, continue d'attirer les participantes. Elles étaient 80 à participer aux ateliers du jour qui se déroulent pour l'occasion au Crépac à Nouville. Ce matin, 3 masterclass étaient proposés avec pour thème « Savoir se protéger lorsque l'on est entrepreneur, concilier vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi trouver son ikigai ». Comprenez ici une méthode japonaise pour trouver sa voie tout en conciliant ses passions. Des masterclass qui ont rencontré un franc succès.
En tant que femme, on est aussi dans une période où il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup et ça, ce sont des ateliers qui nous permettent justement, quand on a des petites idées, des petites volontés de faire quelque chose de différent ou quoi, ça peut être très aidant, oui.
Ça devrait toucher tout le monde. Ces masterclass-là devraient être ouvertes à beaucoup plus grand nombre, tout simplement parce qu'on parle de femmes, on parle d'économie, on parle de travail. Tout le monde devrait avoir cette réflexion pour savoir un petit peu où on va et surtout pouvoir s'aligner ponctuellement à chaque étape de la vie.
Avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on a besoin de femmes, mais d'hommes aussi qui soient entreprenants et qui ont besoin de s'en sortir et de monter leur société ou je sais pas où, de rencontrer d'autres personnes. Parce que c'est aussi une journée où on peut surtout se créer un réseau. Pour ça, c'est super ce qu'ils ont organisé ici.
Cet après-midi, plusieurs causeries étaient proposées, dont une dédiée à la jeunesse et les clés pour se lancer dans de nouveaux projets. Une classe du lycée Jules Garnier était d'ailleurs présente dans le cadre de l'opération La Caravane de l'Entrepreneuriat. Et c'est justement pour le Nouméa Women's Forum que l'appel à projet Women in Tech a dévoilé ses lauréates. 2 projets innovants développés par des femmes ont été récompensés, Charlotte.
Le monde de l'entrepreneuriat dans le secteur numérique est aujourd'hui largement dominé en nombre par les hommes. Et pourtant, les femmes y ont leur place. C'est pourquoi le gouvernement a relancé cette année l'appel à projet Women in Tech, la tech pour les femmes et par les femmes. Sur les 19 dossiers présentés au jury, 2 ont été récompensés ce soir. Celui de Claire Nebeau, une application mobile d'assistance beauté par intelligence artificielle, mais aussi celui de Solène de Sainte-Marie. Elle a développé une plateforme numérique de santé, de sport et de bien-être, appelée Santéo. Elle va donc recevoir une subvention de 500 000 francs par le gouvernement.
Ça va me servir surtout à structurer, parce qu'en tant que professionnelle de santé, les gens viennent me voir « Ah Solène, j'ai mal au dos, je soigne. Ma priorité, c'est je les soigne. » Et là, avec la subvention, je dis ben « Là, il va falloir structurer. Au lieu de faire tes vidéos le week-end, tu vas être accompagnée. Donc, je vais prendre des prestataires ou des individus qui vont m'aider pour tout structurer et avoir les programmes, plus de programmes en ligne pour accompagner les individus. » Donc, un grand merci au gouvernement, à Women in Tech, parce que ça me permet de booster un petit peu ce projet qui aurait mis plus de temps à être plus grand.
Et l'aventure continuera peut-être pour ces femmes entrepreneurs. Le membre du gouvernement en charge du numérique, Christopher Gigès, a en effet profité du Women in Tech pour lancer l'appel à manifestation d'intérêt. Il concerne la participation des start-up calédoniennes au prochain salon VivaTech. Il se tiendra du 17 au 20 juin 2026 à Paris.
NCT Hyundai fête ses 10 ans d'existence. Créé en 2015, le cluster New Caledonia Trade and Invest est un réseau d'entreprises et institutions. Leur objectif est de développer les marchés calédoniens à l'international en accompagnant les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'export, Charlotte.
En 10 ans, l'activité du cluster a connu des hauts et des bas. Après les émeutes de l'an dernier, le nombre d'adhérents a chuté. Il est passé d'une centaine de sociétés à 40, mais NCT Hyundai a continuer son accompagnement. Aujourd'hui, il offre son aide à une soixantaine d'entreprises membres. L'export est toujours, selon le coprésident du cluster, Denis Etourneau, une solution à la crise que traverse le territoire.
Malheureusement, suite aux événements de la Calédonie, si on n'avait pas développé des sociétés qui avaient créé une filiale d'export, la situation aurait été beaucoup plus grave en Calédonie. On a pu maintenir 10% à 15% de nos emplois parce qu'on envoyait les gens à l'extérieur pour travailler. Et ce qu'on veut prouver à l'ensemble de la population et à nos décideurs, c'est qu'une meilleure intégration économique dans la zone est essentielle pour l'avenir.
Export de biens, mais aussi de services, le cluster accompagne depuis 10 ans des entreprises dans le secteur de l'industrie, de l'agroalimentaire ou encore des technologies. Aujourd'hui, la Calédonie a développé des partenariats, majoritairement dans la région Pacifique, notamment avec Fidji, le Vanuatu, la Polynésie française ou l'Australie. Mais pour la suite de l'aventure NCT Hyundai, le cluster souhaite encourager les Calédoniens à voir plus loin.
C'est à nous à s'adapter aux nouvelles lignes et aux décisions politiques qui peuvent amener un développement, et c'est à nous à nous adapter. Donc, effectivement, il y a des opportunités nouvelles, avec un meilleur accès sur l'océan Indien, avec le vol qui peut passer par Bangkok pour aller à La Réunion, c'est un exemple. Renforcer le positionnement de la Calédonie sur les problèmes logistiques, maritimes, aériens dans la zone. Plus on a une desserte aérienne performante, plus on peut prospecter d'une façon plus efficace.
Un événement sera organisé le 13 novembre pour fêter les 10 ans du cluster. L'occasion également de remettre aux entrepreneurs les trophées de l'export. C'est une récompense qui met à l'honneur les hommes et les femmes qui font rayonner la Calédonie au-delà de ses frontières.
Et économie, toujours structurer les acteurs qui interviennent dans le domaine des croisières pour relancer et développer l'activité de ce marché en pleine expansion. C'est la volonté du Club Croisière qui s'est créé il y a quelques jours, Jean-François Baudin.
Et nous en avons parlé ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Par le passé, plusieurs tentatives dans ce domaine n'ont pas porté les fruits attendus. Le Club Croisière ambitionne, lui, de rassembler les acteurs publics et privés pour mener des actions coordonnées. Il a été fondé par les pilotes maritimes, la CCI, l'agence Kenua, NCT et Nouméa Discovery et agrège toutes les structures intervenantes dans ce domaine. Il s'agit de s'organiser pour capter les croisiéristes avant qu'ils ne partent ailleurs, a expliqué Charles Roger, le directeur général de la CCI, car dans ce domaine, la Nouvelle-Calédonie accuse du retard.
La croisière, c'est une industrie qui est en pleine expansion au niveau mondial. C'est une industrie qui correspond aux nouveaux besoins de consommation des touristes mondiaux. Et la Nouvelle-Calédonie n'a pas échappé à cette croissance jusqu'en 2017, avec un pic de 200 escales à Nouméa en 2017. 2018-2019, il y avait un peu une restructuration de la flotte des armateurs qui venaient ici, et puis crise Covid. L'industrie mondiale a été complètement bouleversée et quasi à l'arrêt pendant les 2 ans de la crise Covid. Tout le monde pensait que le secteur de la croisière ne se redresserait pas de cette crise. Et en fait, les chiffres de la croisière au niveau mondial montrent qu'il y a eu une reprise très, très rapide. Aujourd'hui, au niveau mondial, on a plus d'escales ou plus de croisiéristes qu'avant la crise Covid. Un redressement remarquable. Mais la Nouvelle-Calédonie ne s'est pas redressée de la même façon. On a mis plus de temps à rouvrir. En 2022, on a eu la reprise des premières escales. 2023, on avait une croissance intéressante. Mais en 2024, avec la fermeture des 2 escales de Marais et de l'île des Pins, beaucoup moins d'escales. On est autour de 75 escales en 2024 et 2025.
La priorité est donc d'augmenter maintenant le nombre d'escales. Mais pour cela, il faut aussi créer de nouvelles escales, a expliqué Charlie Sarafian, pilote maritime.
Une compagnie, pour pouvoir vendre une destination, a besoin d'avoir plusieurs escales. Les clients des paquebots sont des clients réguliers pour 60%. Donc une fois qu'ils auront fait une fois Nouméa, une fois Lifou, l'année d'après, ils iront ailleurs. Donc si on arrive à créer un vrai catalogue d'escales, donc réouvrir l'île des Pins, réouvrir Marais, ouvrir encore d'autres destinations, les compagnies arriveront à vendre mieux la Nouvelle-Calédonie et toutes les autres escales vont en bénéficier. Forcément, si on réouvre l'île des Pins, Nouméa va en bénéficier et Lifou également. Des compagnies ne font pas le détour vers la Nouvelle-Calédonie, ils passent au large parce que juste pour deux escales, ça ne vaut pas le coup. Donc demain, on a un vrai catalogue d'escales, on fait revenir des paquebots. Ça, c'est pour le cas de la Nouvelle-Calédonie. À côté, en effet, on a le Vanuatu, qui a besoin du tourisme et qui a compris l'intérêt de faire venir des paquebots. On ne va pas dire qu'ils ont une politique agressive, mais ils ont un plan de développement touristique et notamment sur la croisière, avec une privatisation du Nil par RCCL. À côté, la Nouvelle-Zélande a également établi un plan stratégique croisière jusqu'en 2040, avec l'objectif, c'est de capter aussi les paquebots. Donc nous, si on ne fait rien en Nouvelle-Calédonie, juste avec deux escales, on n'arrivera plus avant la destination, et les compagnies vont simplement se détourner. Il y a d'autres bassins, hein, Méditerranée, Caraïbes, demain ils prennent les paquebots et les mettent ailleurs en fait.
Les croisières en Calédonie, ce n'est pas du tourisme de masse, sont ajoutés les intervenants qui ont aussi insisté sur le fait que les compagnies et leurs paquebots avaient pris en compte les questions environnementales. Ils sont convaincus que le développement des croisières constituera une manne économique importante, à condition de prendre les mesures techniques et fiscales pour inciter les compagnies à considérer que la Calédonie est une destination porteuse.
Une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
RRB, il est 18h01.
Solidarité avec des dons alimentaires. La société Saint-Vincent-de-Paul poursuit son engagement envers les personnes en difficulté. Cette fois-ci, l'association offrait aux Calédoniens qui répondaient aux critères d'attribution des bons d'achat alimentaires. Les précision d'Elisabeth Gau, présidente de l'association.
À peu près tous les trimestres, nous faisons donc des dons alimentaires et d'hygiène. Là, ça a commencé donc ce matin. C'est toute la journée à Normandie, on va faire des bons alimentaires. D'habitude, on fait des colis pour les personnes. C'est toujours nos mêmes critères d'attribution. Donc le premier critère, c'est les personnes qui ont plus de 70 ans, qui ont l'aide médicale gratuite. Le deuxième, c'est des gens handicapés qui ont l'AMG. Troisième volet, ce sont des gens qui sont au chômage, qui pointent surtout et qui nous amènent le justificatif de pointage depuis les exactions de mai 2024. Puis les personnes qui gagnent moins de 100 000 francs par mois et qui ont deux enfants de moins de 12 ans. Voilà, c'est les après-midi qui sont réservés à ces gens qui sont dans la nécessité et qui ont des bons alimentaires.
Les personnes concernées en possession des bons alimentaires se sont donc rendues cet après-midi dans l'épicerie de la vallée du Tir pour faire leurs achats de première nécessité.
Je suis demandeur d'emploi et j'ai trois enfants à charge. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de familles qui sont vraiment embêtées parce qu'avec un salaire ou deux salaires, on n'arrive pas à finir le mois. Même au début du mois, dès que la paye tombe, ben, tout part sur le loyer et les factures. Mais après, au niveau de l'alimentation, il y a pratiquement plus rien à manger pour nos enfants.
Je suis venue pour moi-même, moi et mon fils, avec ma mère.
C'est bien, ça aide.
Ben, en fait, on est venu là pour accompagner mon grand frère, mon cousin Germain. Comme lui, il a une carte d'handicap. Du coup, comme lui vit tout seul, je suis venu l'accompagner pour lui, pour ses besoins alimentaires. C'est bien ce qu'ils font, c'est de la solidarité.
L'épicerie solidaire de la vallée du Tir sera ouverte mercredi et jeudi après-midi prochain. L'association participera également à la journée solidarité de la presqu'île de Ducos ce dimanche dans le but de distribuer des colis alimentaires. 18h passées de 3 minutes, seconde pause avant de voir les différents événements qui se déroulent sur le territoire. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Europe 1 sur RRB, c'est les journaux d'information en direct de Paris. Le regard international de Vincent Hervouet.
C'est rare qu'un ambassadeur soit viré 3 jours après avoir été nommé.
Le grand rendez-vous, la revue de presse internationale, l'interview de Sonia Mabrouk.
Bonjour.
Europe 1 sur RRB, pour être les premiers informés.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et je vous le disais juste avant la pause, plusieurs événements sont organisés actuellement sur le territoire. Le groupe CPH organise son salon de l'auto jusqu'à samedi. Un événement festif pour dynamiser le marché. Les 11 marques du groupe proposent aux clients des offres promotionnelles. Frédéric Posé, le directeur général de CPH.
Tout ça pour, je dirais, animer le marché à particulier, parce que le marché déjà globalement automobile est en baisse de moins 30 à moins 50% selon les mois, mais le particulier est encore plus en difficulté. Donc l'idée c'est quand même de redonner goût un petit peu aux produits auto avec des conditions, je dirais, imbattables puisqu'on est sur des niveaux prix plancher. On est toujours en mode liquidation de stock, hein, avec des prix quasiment au niveau zéro marge, hein, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Il y a encore une fois des très bonnes occasions, on est en mode amélioration de nos trésoreries, on est tous en difficulté, hein, entreprise que nous sommes, hein, dans l'automobile. Donc qui dit trésorerie améliorée dit prix les plus bas. Donc on est sur des remises parfois jusqu'à 1 million de francs, quoi, hein, selon les marques, selon les véhicules. Là, on n'est plus dans une logique de marge, on est dans une logique vraiment de déstockage. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des affaires à faire comme jamais autour de ce salon qui s'arrête samedi soir, quoi.
Le salon du village automobile sera donc ouvert demain de 7h30 à 18h et samedi de 8h à 17h. Autre salon, le Prestige, qui fait son retour. Il s'ouvre demain et ce pour deux jours à l'Amirauté à Nouméa. Un retour puisqu'en raison des émeutes de mai 2024, il avait été annulé. Le principe reste le même. Il s'agit de proposer des produits et services haut de gamme. Mais il a fallu s'adapter, explique Bruno Aurelio, le gérant de Pacific Fair, qui organise ce salon.
On a dû réinventer un petit peu le salon, même si le concept reste le même. On ne va pas présenter des boutiques connues du grand public. On a décidé plutôt de privilégier des artisans qui travaillent des matériaux nobles, des matériaux précieux, pierres précieuses, du bois, de la photographie, des artistes, pour avoir un salon prestige plutôt dans l'air du temps, du moment. On aura des dégustations également. On a de beaux produits en Calédonie, que ce soit du poisson fumé, des huîtres, des crevettes. On aura des filochets de cerf. Voilà. On a préféré mettre en avant vraiment des trésors du territoire avec des artistes et des artisans de talent que l'on a sur le territoire.
Le salon Prestige est ouvert demain et samedi à l'Amirauté de 10h à 19h. Demain marque également le début d'un événement culturel. Le festival de cinéma itinérant Récif débute en effet demain. Récif pour réalisateurs émergents cinéma international et films du Pacifique remplace le festival de la foi qui a vécu sa dernière édition l'an passé. Un nom qui change mais qui garde la même essence, celle de faire découvrir des films de jeunes auteurs au plus grand monde. Et grande nouveauté, cette année, la compétition s'ouvre aux réalisateurs du Pacifique et non plus seulement aux Calédoniens. Pour cela, des cinéastes venant de Nouvelle-Zélande et d'Australie seront présents tout au long du festival, explique Delphine Olivindine, programmatrice du festival Récif.
On a la chance d'avoir avec nous Damon Fepulahi, qui est le réalisateur de Red, White and Brass, qui sera le film de la tournée. En fait, ce film va se déplacer vraiment dans plusieurs communes. Je pense que c'est un film qui peut rassembler, qui peut faire rire, qui peut faire du bien aux familles. Voilà, on voulait cet esprit-là, cet état d'esprit de s'amuser ensemble devant du cinéma. Et puis également deux Australiens qui vont nous rejoindre aussi avec leur court-métrage. Et ce sont des Australiens qui ont été aidés dans le cadre d'un programme qui s'appelle Spark. C'est un programme des territoires du nord de l'Australie qui justement valorise comme nous le cinéma émergent.
L'ouverture du festival Récif se déroulera demain soir au Centre culturel Chibaou avec la projection du film Red, White and Brass de Damon Fepulahi. Toute la programmation est à retrouver sur le site internet recif.nc. Encore un succès pour le CIPAC Challenge. Après une année de pause en 2024, la compétition sportive inter-entreprise a repris cette année pour une troisième édition, Charlotte Coulson.
Pendant 15 jours, 3247 participants ont enfilé leurs chaussures de sport pour essayer d'atteindre l'objectif, celui de réaliser 20 000 pas quotidiennement. Le top départ était donné le 6 octobre dernier et c'est difficilement mais sûrement que l'entreprise Goodman Fielder s'est imposée à la tête du classement. Ils ont été récompensés hier soir lors de la remise des prix, soirée au cours de laquelle le directeur général du groupe CIPAC, Pierre Massenet, a salué l'engouement des participants cette année encore.
On est très satisfait de l'édition, effectivement. Troisième édition, on s'était fixé un objectif 3000 participants. On est presque à 3300, sachant que l'édition d'avant, on était à 2500, donc c'est un engouement qui augmente. Et on est très content parce que un engouement qui augmente, ça veut dire plus de personnes qui font de l'exercice. Tous les participants ont parcouru 300 000 km, donc c'est quand même assez significatif. Et on a 195 participants, donc sur les 3300, qui ont fait les 20 000 pas par jour. Mais c'est pas le chiffre qui est important encore. Le chiffre qui est important, c'est pas combien on fait le taquet des pas. La question, c'est qui a franchi la ligne d'arrivée. Et on a 3247 participants qui ont franchi la ligne d'arrivée, donc qui ont été actifs pendant les 15 jours. Et c'est ça l'objectif. C'est pas forcément de faire les 20 000, c'est de prendre conscience qu'on fait pas assez de pas et d'en faire.
Et ne rangez pas vos baskets trop vite, car le CIPAC Challenge reviendra l'année prochaine avec une édition un peu spéciale, orientée sur les Jeux du Pacifique 2027.
Avant de terminer ce journal, un mot de sport avec du football et la suite de la Coupe du Monde du 17 au Qatar. C'est cette nuit, à minuit exactement pour nous, que les Cagous rencontreront le Japon. Après une première défaite face au Portugal, 1-6 en entame du groupe B de cette Coupe du Monde, l'équipe de Nouvelle-Calédonie doit affronter les Japonais vainqueurs du Maroc. Il y a 3 jours, sur le score de 2-0. Autant dire que là encore, ce match s'annonce plus que coriace pour nos U17 Cagous. Coup d'envoi de la rencontre à minuit et c'est à suivre en direct sur la télévision sur FIFA+. 18h10, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on chausse nos baskets et on va voir la météo avec vous, Pierre.
La vigilance jaune pour forte pluie et orage restera en vigueur avec des averses orageuses qui persisteront ce soir sur les Loyautés avant de se reformer vendredi à la mi-journée sur le relief et les Loyautés, puis de déborder vers la côte est dans l'après-midi. Cette nuit, les averses orageuses continueront en première partie de nuit aux Loyautés avant de s'estomper progressivement. Ailleurs, les nuages et pluies de la journée se dissiperont rapidement, laissant place à un ciel bien étoilé. Le vent de secteur est soufflera faiblement entre 5 et 10 nœuds et les températures nocturnes resteront stables et de saison entre 19 et 23 degrés et parfois plus fraîche aussi, hein, faut le dire, autour de 16 à 18 degrés dans l'intérieur des terres. Demain matin, quelques averses résiduelles évolueront encore aux Loyautés dans un ciel passagèrement nuageux. Sur le reste du territoire, le soleil dominera d'abord avant que des nuages ne viennent gâcher la fête sur la chaîne, donnant déjà quelques averses. Le vent d'est faible autour de 5 nœuds dominera, tandis qu'autour de la Grande Terre, ce sont les brises côtières qui prendront le relais. Et côté marée, pour nos amis les pêcheurs, elle sera haute ce soir vers 20h12 avant de redescendre dans la nuit autour de 2h30, puis de remonter demain matin avec un nouveau pic attendu à 9h08.
Et merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Il est 18h12, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.